Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Canal Académie. Restez avec nous pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire consacrée au pacte germano-soviétique. Vous le savez, nous commémorons cette année un triste anniversaire, celui de l'entrée en guerre de l'Europe. Or, cette guerre n'a été possible dans ses origines proches qu'après la signature d'un pacte entre l'Allemagne hitlérienne et la Russie soviétique. Pour évoquer cette alliance entre les deux totalitarismes, je suis heureux de recevoir au micro de Canal Académie Stéphane Courtois. Stéphane Courtois, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation.
Ah, mais le plaisir est réciproque.
Vous êtes venu plusieurs fois donc à ce micro pour évoquer notamment le concept de totalitarisme qui a été l'objet de plusieurs publications aux éditions du Rocher. Et vous venez de publier, c'est une publication de la Fondation pour l'innovation politique, un article assez long sur l'alliance soviéto-nazie, 70 ans après. Et vous venez également de publier dans la collection Tempus plusieurs textes inédits ou en tous les cas un peu épars que le grand public ne connaissait pas et que les éditions Perrin ont eu la bonne idée de publier dans leur collection de poche, donc la collection Tempus. Cela s'appelle Communisme et totalitarisme. Et enfin, je ne vous avais pas reçu à l'époque de sa sortie le dictionnaire du communisme que vous avez dirigé aux éditions Larousse, dans la collection à présent. Alors, j'en viens à notre sujet et ma première question sera au fond une question historiographique. Le pacte germano-soviétique a longtemps été occulté par l'historiographie, mais même encore aujourd'hui, les mémoires restent sélectives par rapport à ce pacte. Vous dites même, vous utilisez l'expression des mémoires qui ne sont pas encore réunifiées.
Oui, je crois que c'est assez clair et c'est même particulièrement clair en ce moment, puisqu'effectivement il y a ce 70e malheureux anniversaire de ce qu'on appelle le pacte. En fait, ce sont des pactes, puisqu'il y a eu en fait deux traités.
Un public et un secret.
Oui, un public et un secret le 23 août 1939, puis ensuite, le 28 septembre après la destruction de la Pologne, un traité d'amitié et de délimitation des frontières entre l'URSS et l'Allemagne nazie. Donc, deuxième pacte que souvent on a tendance à oublier, mais qui est presque plus important que le premier, puisque celui-là, il entérine directement la destruction de la Pologne, l'annexion à terme des États baltes de la Bessarabie par l'URSS, et surtout c'est un traité d'amitié, donc entre deux puissances dont on pouvait penser un an avant qu'elles étaient, et même six mois avant, qu'elles étaient au plus mal sur le plan idéologique, en conflit ouvert, etc. Donc on a actuellement une actualité étonnante là-dessus, puisque vous l'avez vu, on a en Russie une espèce de curieux révisionnisme historique. J'allais dire un révisionnisme à rebours. D'habitude, le révisionnisme en histoire améliore la vision de l'histoire, les interprétations, nouvelles documentations, etc. Là, on a plutôt une révision à rebours, c'est-à-dire que, alors que sous Gorbatchev et sous Eltsine, dès 1991-92, les soviétiques puis les russes avaient clairement ouvert les archives concernant cette fameuse alliance entre Hitler et Staline, avait confirmé l'existence des protocoles secrets du fameux traité du 23 août 1939, avait confié aux Polonais beaucoup de choses, etc. On semble être dans un moment de régression, c'est-à-dire que M. Poutine vient nous expliquer que, non, il ne faut pas trop parler de ça, etc. Il fallait bien que l'URSS se défende. On a même toute une campagne de presse en Russie qui nous explique qu'en fait, les vrais responsables de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Polonais, parce que de prétendus documents des services de renseignement soviétiques qu'on sort maintenant du chapeau indiqueraient que la Pologne se préparait à attaquer l'URSS en 1939, ce qui est évidemment tout à fait absurde. Il faudrait vraiment penser que les Polonais étaient des fous furieux, parce que si l'on en croit Hitler, c'est comme ça qu'il a commencé la guerre, sa justification de l'attaque de la Pologne, c'est qu'il venait d'être attaqué par les Polonais. attaque complètement fausse, nous le savons, qui était une provocation montée par un groupe de SS. Mais voilà-t-y pas que 70 ans après, M. Poutine nous tient le même discours sur le thème « Les Polonais s'apprêtaient à nous attaquer ». Donc si on en croit Hitler d'un côté en 1939 et Poutine en 2009, eh bien les Polonais s'apprêtaient le même jour à attaquer des deux côtés leurs deux petits voisins, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Bon, tout ça n'est pas sérieux, mais c'est quand même assez inquiétant et triste, je dirais, parce que tout de même, les historiens ont travaillé depuis longtemps. On a maintenant beaucoup d'aperçus sur tout ça et les choses sont quand même assez claires.
Alors, vous le dites, vous parlez à propos de la Russie. Je reste sur cette idée de mémoire, d'une mémoire schizophrénique, parce qu'elle est à la fois tragique, puisqu'elle se souvient tout de même qu'il y a eu la terreur et le goulag. Et cette mémoire tragique, elle est partagée dans plusieurs pays de l'Est, comme l'Ukraine. Mais la mémoire glorieuse, telle que la défendrait un Poutine, elle est partagée en Occident et largement.
Oui, c'est très curieux. Si on se réfère uniquement à cette affaire de 1939, les pactes entre Hitler et Staline, celui du 23 août et celui du 28 septembre, ont abouti au partage, à la destruction de la Pologne. Ça a été le quatrième partage de la Pologne. L'URSS s'est emparée de la partie orientale, puis ensuite, en juin 1940, a annexé purement et simplement les trois États baltes et une province roumaine qui était la Bessarabie. Bien, inutile de dire que dans ces parties annexées par l'URSS, elles ont été immédiatement soviétisées. Le NKVD, la police politique, a fait son travail. On a assisté à des massacres systématiques des élites, à des déportations massives de populations, etc., etc. Bref, tout ce qui s'était passé en URSS dans les années 30. Et c'est donc ces pays, ces populations, jusqu'à aujourd'hui, ont conservé justement cette mémoire tragique de l'invasion de l'armée rouge. Bon, de son côté, évidemment, M. Poutine aujourd'hui vient nous expliquer qu'en fait, tous ces pays ont été libérés du fascisme en 1945 par l'armée rouge. Deuxième passage qui a laissé une deuxième série de mémoires tragiques. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que en Occident, on ne tient aucun compte de cette mémoire de gens qui sont maintenant des Européens. Ils sont entrés dans l'Europe. J'ai envie de dire, ce sont nos frères européens. Eh bien, il y a dans nos pays beaucoup de gens qui ne veulent pas tenir compte de ces réalités qui sont les réalités fondamentales de l'Europe centrale et orientale depuis 70 ans. Donc, ça, c'est quand même un gros problème au niveau de la réunification européenne. Si, au niveau des mémoires, on ne va pas vers une reconnaissance de la part des Européens de l'Ouest, que les Européens de l'Est ont eu à subir de grandes catastrophes, de grandes tragédies, du fait d'abord du pacte germano-soviétique et donc de l'annexion par l'URSS de territoires considérables. C'était pas des petits territoires. Je veux dire, quand Staline s'empare de la moitié de la Pologne, ça fait 12 millions de personnes quand même. Bon. Et puis les États baltes, 1 million ici, 1 million là-bas, 1 autre million là-bas, la Bessarabie, 4 millions. Bon. Donc tout ça, ça commence à faire beaucoup de monde. Hein. Et ces gens-là, évidemment, ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé. Alors évidemment, ça explique des tensions très fortes qu'on a aujourd'hui entre la Russie d'un côté et puis la Pologne, les États baltes, qui craignent, évidemment. Ça étonne beaucoup ici. On dit, mais pourquoi est-ce qu'ils sont si nerveux? Pourquoi est-ce qu'ils veulent rentrer dans l'OTAN? Mais ils veulent rentrer dans l'OTAN parce qu'ils veulent être protégés. Ils ont des très mauvais souvenirs de deux invasions par l'armée rouge en 39, 40 et en 45. Et bon, ça a laissé des sérieuses traces dans la mémoire collective de ces pays.
Alors nous reviendrons, Stéphane Courtois, en fin d'émission sur cette idée. Comment interpréter ce pacte? Était-ce un mal nécessaire, une recherche désespérée de la sécurité de la part de Staline, une prolongation de Rapallo? Nous verrons tout cela en fin d'émission. J'en viens au pacte lui-même, ou bien même plus exactement aux origines du pacte. Il existe une histoire, bien évidemment, des liens entre l'Allemagne et, j'allais dire la Russie, mais je ne vais pas dire la Russie, le communisme. Cela remonte à la Grande Guerre de 14.
Oui, alors, le premier lien, qui est un lien direct, c'est effectivement la manipulation par les services de renseignement allemands pendant la guerre de 14, d'un certain Lénine, qui était en Suisse avec son équipe de bolcheviks, et que les services de renseignement allemands ont autorisé à rentrer en Russie au printemps 1917, alors qu'une révolution démocratique avait déjà éclaté en Russie. Évidemment, le haut état-major allemand s'est dit, si nous, c'est déjà un petit peu la pagaille en Russie, Rappelons que la Russie était en guerre contre l'Allemagne, donc depuis août 14. Ils se sont dit, si nous renvoyons cette équipe de révolutionnaires avec beaucoup d'argent en Russie, ils ne pourront qu'accélérer la pagaille. Ce qui s'est passé et qui a abouti très rapidement, puisque moins d'un an plus tard, c'est-à-dire en mars 1918, la Russie bolchevique, c'est-à-dire la Russie où Lénine et les bolcheviques étaient au pouvoir, ont signé ce fameux traité de Brest-Litovsk, qui était un désastre total pour la Russie, puisqu'elle abandonnait à l'Allemagne des portions de territoire considérables, avec ses greniers à blé, avec ses grandes industries, etc. etc. Hein ? Alors, il se trouve que, bon, à l'arrivée, Lénine n'a pas perdu, puisque l'Allemagne ayant été vaincue en novembre 1918, elle a été obligée de lâcher tout ça, si je puis dire, hein, et qu'ensuite une guerre civile qui était déjà largement engagée a été gagnée par les bolcheviques qui ont fini par récupérer une partie de tous ces territoires. Hein. Mais il y a donc là déjà une espèce de connexion entre certaines élites allemandes, c'est-à-dire en particulier l'armée, et le groupe bolchevique. Bon. Ce qui est curieux, c'est que cette connexion, cette connivence, je dirais, chacun, bien entendu, poursuivant ses propres objectifs, va se retrouver en 1922 avec une opération tout à fait extraordinaire menée par Lénine, hein, lors de la grande conférence internationale de Gênes, qui est censée régler, y compris avec les deux pays qui avaient été exclus des traités, les traités de 1919-1920, hein, l'Allemagne et la Russie, qui étaient les deux grands perdants de la guerre, qui étaient invités à cette conférence de Gênes, justement pour essayer de, j'allais dire, de rabouter les morceaux. Eh bien, voilà que Lénine, très habilement et très brusquement, et en secret bien entendu, décide de faire une alliance avec l'Allemagne, et à la stupeur générale, il annonce que la Russie bolchevique a noué une alliance avec l'Allemagne, et ça fait littéralement exploser la conférence de Gênes.
C'est le traité de Rapallo.
C'est le traité de Rapallo.
Qui est le premier acte de liberté allemand après la Grande Guerre.
Absolument, et qui correspond à un principe très, très clair de la politique étrangère des bolcheviques, et de Lénine évidemment, qui est encore très actif à cette date et qui définit lui-même cette politique. Alors on a maintenant les archives, on voit qu'il suit de très près l'affaire de Rapallo à coups de télégramme, il donne toutes ses directives directes à Tchitcherine, etc. Hein, et l'idée est très simple, il s'agit de un grand principe de la politique étrangère soviétique, de faire ce que les bolcheviques appellent diviser les impérialistes. Hein, c'est-à-dire, bon, il y a des impérialistes qui ont gagné la guerre, c'est les Français et les Anglais. Il y a un autre impérialiste qui l'a perdu, c'est l'Allemagne. Eh bien, on va les empêcher de se réconcilier. On va mettre un coin entre les deux. Et ce coin, il va avoir une importance considérable. Puisque qu'est-ce qu'il y a à la clé du traité de Rapallo, outre les clauses publiques du traité, etc., les questions commerciales, etc. Il y a un accord militaire secret qui fait que l'Allemagne, qui par le traité de Versailles se voit interdire de reconstituer une armée offensive, avec de l'armement offensif, avec des tactiques offensives et avec une mobilisation d'hommes très importante, eh bien l'Allemagne va reconstituer ses capacités offensives secrètement en URSS jusqu'à la fin de 1933.
Mais avant même le traité de Rapallo, il y a eu une première alerte qui est la guerre russo-polonaise de 1920. On l'oublie.
Alors ça, donc là, on vient de parler de l'aspect des relations bolchevico-allemandes, si je puis dire, ou bolchevico-germaniques. Il y a un autre aspect de tout ce problème de 1939 qui naît en 1920, c'est l'aspect des relations bolchevico-polonaises. Et là, effectivement, ça se passe très mal puisque Lénine, qui est en train de gagner la guerre civile en 1920, veut étendre la révolution au maximum. Et ça, c'est un deuxième principe de sa politique étrangère. C'est l'expansion de la révolution, de ce qu'il appelait la grande révolution prolétarienne mondiale. Le moyen d'expansion étant double et non contradictoire, soit la subversion interne dans un pays où on veut étendre la révolution, par exemple l'Allemagne, par exemple la Pologne, soit tout simplement le socialisme ou le communisme porté à la pointe des baïonnettes de l'armée rouge. Hein, les deux, et d'ailleurs, les deux formules ne sont nullement contradictoires. C'est d'ailleurs ce que Lénine va pratiquer à l'été 1920. Il attaque, l'armée rouge attaque massivement la Pologne, et avec un très grand succès, puisqu'ils vont pratiquement jusque devant Varsovie, jusque sur la Vistule. Et c'est là qu'il y a ce qu'on appelle traditionnellement le miracle de la Vistule, hein, c'est-à-dire l'armée polonaise, en particulier conseillée par des officiers français, Weygand, un certain capitaine de Gaulle qui était là-bas, va monter une opération du désespoir, je dirais, qui va être une opération de tenaille qui va, qui va prendre, comme l'armée rouge s'est avancée à toute allure d'est en ouest vers Varsovie, eh bien, les Polonais vont la prendre en tenaille par derrière, hein, et refermer la tenaille. Et comme les lignes bolcheviques de l'armée rouge sont tout à fait étendues sur des centaines de kilomètres, ça va finir en désastre de l'armée rouge, mais avec à la clé quelqu'un qui n'a pas observé les ordres, qui est un certain Joseph Staline. Parce que Joseph Staline commandait le front sud de l'armée rouge. C'était Trotsky qui était le chef de l'armée rouge et Tukhachevski qui était le général en chef. Et Staline avait reçu ordre sur le flanc sud de remonter du flanc sud vers Varsovie. Mais il ne l'a pas fait. Il n'en a fait qu'à sa tête. Il a voulu mettre le siège devant une ville, etc. Bref, au moment où il aurait dû être là pour empêcher les Polonais de passer derrière le front de l'armée rouge et couper ses arrières, eh bien, l'armée rouge n'était pas protégée sur son flanc sud. Inutile de vous dire que ça fait un clash extrêmement violent entre Trotsky et Staline d'un côté, ça c'était deux politiques, et puis entre Staline et Tukhachevski de l'autre côté, parce que Tukhachevski, le général en chef, n'avait pas sa langue dans sa poche. Et il a clairement fait une analyse, évidemment, après la défaite qui s'est transformée en déroute, la direction de l'armée rouge a fait une analyse en disant, ben voilà, ce qui a manqué, c'est le front sud. Qu'est-ce qui commandait le front sud? Ah, c'était un certain Joseph Staline. Ça vous explique la suite des événements. D'abord, la liquidation d'une grande partie de l'état-major de l'armée rouge en 1937-38, a commencé par l'assassinat pur et simple de Tukhachevski, le général en chef, maréchal Tukhachevski, qui en savait trop sur les responsabilités de Staline dans cette affaire et qui avait ouvertement dit son sentiment.
Et hein, ça annonce Katyn.
Ce qui annoncera ensuite Katyn avec la liquidation des officiers polonais. Et puis d'autre part, le fait que Staline va être bien décidé à régler son compte à la Pologne, puisque en 1939, quand la Pologne aura été envahie des deux côtés par l'Allemagne à l'ouest, par l'Union soviétique à l'est, Hitler n'avait pas vraiment décidé de ce qu'il allait faire. Est-ce qu'on laissait un état croupion polonais? Et Staline a tout de suite dit non, non, on liquide.
Alors nous allons y revenir, Stéphane Courtois, après cette première pause.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée au pacte germano-soviétique. Nous en sommes aux origines et aux liens entre l'Allemagne et la Russie. Donc, faisons un bond dans l'histoire. De 1920, passons aux années 30. Et visiblement, la Russie tente à s'éloigner peu à peu de l'Allemagne et elle opte pour une politique de sécurité collective qui la rapproche de la France. Et naturellement, elle est touchée par le fait qu'en 1933, un certain Adolf Hitler arrive au pouvoir.
Bah oui, évidemment. Alors, Hitler arrive au pouvoir. Il faut rappeler que le grand thème de propagande d'Hitler au pouvoir en 1933, c'est pas tellement sur les Juifs. À ce moment-là, il est encore assez prudent sur la question antisémite. C'est l'antimarxisme. Hein, c'est de grands discours violemment antimarxistes, anticommunistes, antisocialistes, etc. Mais ça n'a pas l'air d'émouvoir le camarade Staline. Les officiers allemands sont toujours en train de s'entraîner secrètement avec du matériel tout à fait nouveau, etc. Hein, on expérimente les nouveaux tanks, on expérimente les Stuka, on expérimente les tactiques d'attaque qu'on verra en Pologne en 1939 et surtout en France en 1940. Hein, tout ça va être expérimenté secrètement en URSS. Bon. Et Staline laisse faire jusqu'au moment où vers octobre 1933, ça n'est plus possible. Et surtout, Hitler décide que ça suffit et fait rapatrier, fait annuler tous ses accords secrets et fait rapatrier tous ses officiers, tout ce matériel, etc. Bon. À partir de ce moment-là, Staline, évidemment, se dit « Bon, avec l'Allemagne, ça devient vraiment problématique. Donc, on va chercher une autre alliance. » Hein, et toujours selon le principe qu'il faut diviser les impérialistes, bon, on va changer son fusil d'épaule, puisqu'on n'a pas réussi à faire de révolution en Allemagne, on se rapproche de la France, un peu moins de l'Angleterre, parce que bon, c'est plus difficile, les Anglais, mais la France, ça va, et d'autant qu'il va y avoir un gouvernement de Front Populaire rapidement, etc. Donc, on fait alliance avec la France, et ça va assez loin, on essaye d'avoir des accords militaires, etc. Il y a même des hommes politiques français qui sont très, très intéressés par tout ça, Herriot, Pierre Cotte, etc. Bon, mais rapidement, à cause de la guerre d'Espagne, Staline s'aperçoit que les démocraties sont plutôt molles face à Hitler et ne soutiennent pas la voie, enfin soutiennent, mais de manière modérée, la République espagnole. Donc, il commence à se poser beaucoup de questions sur sur quel cheval il faut jouer.
Est-ce qu'il se demande si la carte de l'antifascisme, telle que l'a décrite d'ailleurs admirablement bien François Furet, est la bonne ?
Oui, bah, c'est la carte qu'il va jouer à partir de 1934 jusqu'en 1937 à peu près. Mais plus que la carte de l'antifascisme, il va même jouer la carte de la démocratie. Il faut rappeler qu'en 1936, le camarade Staline édicte ce qu'on va appeler la constitution la plus démocratique du monde. Un an plus tard, il va commencer un massacre systématique qu'on va appeler la Grande Terreur et faire massacrer 700 000 personnes en 14 mois. Mais Staline est un homme politique extrêmement intelligent, bien sûr. Il poursuit des objectifs qui sont des objectifs totalitaires. Mais si on le prend pour un crétin, on ne peut pas comprendre justement toutes ces manœuvres. Il manœuvre très habilement. Donc, il a cherché une alliance d'un côté. Elle ne semble pas donner de grands fruits. Il craint toujours qu'il y ait un rapprochement entre l'Allemagne et les démocraties. C'est toujours le principe. Si les impérialistes se rapprochent, ça peut être dangereux pour l'URSS. Donc, il faut toujours chercher à diviser l'Allemagne d'un côté, la France, l'Angleterre de l'autre. C'est ce qu'il va essayer de faire. Et finalement, ça ne marche pas parce que la France et l'Angleterre ne vont pas soutenir beaucoup la République espagnole qui va finir par être vaincue par Franco. Et puis de l'autre côté, il va y avoir les fameux accords de Munich. Bon. Et ces accords de Munich, alors, ils sont très discutés. Les uns disent tout vient des accords de Munich. Non, il faut dire que Hitler jouait en partie sur du velours. Il faut rappeler que depuis la guerre de 14-18 et surtout après 1918, il y avait un grand principe qui s'était instauré, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bon. Donc Hitler joue sur du velours en disant il y a des gens qui ont décidé de faire une Tchécoslovaquie, mais dans cette Tchécoslovaquie, à l'ouest, il y a des populations allemandes très importantes. Il est normal que ces populations rejoignent le Reich. Ce sont des populations allemandes. C'est intolérable que ces populations soient dans un autre pays, soient obligées de parler une autre langue, etc. Donc, il faut bien dire qu'il joue très habilement aussi, Hitler, là-dessus. Et les démocraties ne peuvent que dire, il y avait déjà eu l'affaire de Lassar en 1935, avec un référendum gagné haut la main par les nazis, rattachement de Lassar à l'Allemagne. Il y avait eu l'Anschluss, le rattachement de l'annexion de l'Autriche en mars 1938. Et Hitler continue sur sa lancée, les Sudètes. C'est donc l'objet des accords de Munich, dont l'URSS est écartée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas officiellement partie prenante aux accords, mais elle est néanmoins, nous le savons maintenant par les archives, elle est tenue au courant très régulièrement de l'évolution des négociations. Bon, elle ne peut pas dire qu'elle est tenue complètement à l'écart. Et Daladier et Chamberlain, mais Chamberlain en particulier, sont absolument persuadés, et c'est d'ailleurs un engagement solennel que Hitler a pris devant tout le monde, qu'après le rattachement des populations allemandes des Sudètes au Reich, eh bien, ce serait terminé. Il n'aurait plus aucune revendication. Bon.
Mais alors, ce qui est très important dans votre article, qui a été publié par la Fondation pour l'innovation politique, Retour sur l'alliance soviéto-nazie 70 ans après, ce que vous dites dans cet article, c'est qu'au fond, à l'été 1936, Staline engage le premier des grands procès de Moscou et organise une gigantesque purge de l'état-major et des officiers de l'armée rouge. Et vous voyez finalement dans cette action une préparation à la guerre.
Oui, absolument. Bon, Staline...
Dès 1936.
Oui. Staline, je le répète, j'ai même fait presque un scandale dans cette académie il y a quelques années lors d'une conférence sur Staline où j'ai déclaré que, à mes yeux, Staline était le plus grand homme politique du XXe siècle. J'ai précisé que je le voyais d'un point de vue technique, c'est-à-dire celui qui avait le mieux mis en adéquation ses moyens avec ses objectifs. Alors bien sûr, ses objectifs sont totalitaires, sont criminels, on peut les critiquer, mais sur le plan de la technique politique, bon, il a battu tout le monde.
Une conférence d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans notre médiathèque.
Certainement, mais il y a une chose que vous ne pouvez pas retrouver dans votre médiathèque, c'est le moment où Raymond Barre a même ouvert un œil en se disant « Mais que raconte ce farfelu ?» Bon, c'était assez drôle. Bon, mais en tout cas, je maintiens ce point de vue. Maintenant qu'on a vu de plus en plus d'archives, Staline a montré sa supériorité politique sur tous les... sur Roosevelt, sur Churchill, sur De Gaulle, sur Hitler, bien entendu. Il s'est montré vraiment un homme politique tout à fait supérieur.
Bon. Est-ce qu'on peut dire que finalement, là, il a non pas un, mais deux coups d'avance sur à la fois les démocraties, mais à la fois sur Hitler ?
C'est-à-dire que Staline est très tôt persuadé qu'il y aura une guerre. qu'il y aura une guerre, qu'on va...
Alors qu'un Blum, par exemple, en France, n'y croit pas du tout.
Ah ben non, au contraire. Et la France et l'Angleterre font tout pour empêcher une guerre, pour calmer Hitler, en se disant, bon, ce gars est très nerveux, mais il n'y a pas de raison, on ne va pas remettre ça. On a déjà mis ça en 14, on a vu ce que ça donne. Donc, on ne peut pas remettre ça, ce n'est pas possible. Et c'est vrai qu'il y a un certain aveuglement, hein, c'est-à-dire que... On pense que les discours de Hitler sont des discours extrémistes pour la propagande, la population, mais on n'imagine pas qu'il soit capable de passer à l'acte. Hein, c'est ça le problème. Et donc, dans la mesure où Hitler est assez intelligent pour proposer des revendications plus ou moins modérées ou qui ont une certaine justification, je parlais des Sudètes à l'instant, bon, eh bien, oui, mais à Munich, normalement, l'expansion allemande était arrêtée, c'est-à-dire Hitler s'était engagé solennellement à ne plus rien réclamer. Et voilà qu'intervient un événement considérable qui, d'ailleurs, je le regrette parce qu'il était un peu, il est tout à fait sous-estimé. Par exemple, dans la série de Costel qui vient de sortir, Apocalypse, il y a un événement central qui est un peu occulté ou qui est traité comme ça, comme un événement un peu anodin, qui est Hitler envahit la Tchécoslovaquie. Ah ben oui, mais ça change tout. Ça change tout. Hitler, le 14 mars 1939, envahit la Tchécoslovaquie. Il déchire purement et simplement les accords de Munich, mais purement et simplement. Et ils pensent que bof, ça va passer. Mais ça va passer, sauf que ça ne passe pas. Vous savez, les Britanniques, ils sont comme ils sont, on les connaît. Au rugby, ils ne sont pas tendres, etc. Bon, mais ce sont des gens qui ont une certaine vision des valeurs, etc., de la parole donnée, etc. Bon, quand Chamberlain est rentré de Munich en 38, en septembre 38, hein, tout le monde se souvient de cette image, il sort de l'avion avec un papier à la main, il annonce voilà, le papier qui garantit la paix pour 50 ans. Bon. Le 15 mars au matin, les Anglais sont bien obligés de s'apercevoir que bon, le traité de Munich est purement et simplement déchiré. Hitler s'assied dessus. Et là, l'opinion, la Grande-Bretagne est un pays démocratique, et l'opinion réagit très violemment. C'est-à-dire que là, l'opinion dit, maintenant, c'est terminé. Ce monsieur Hitler qu'on nous a présenté comme quelqu'un de fréquentable avec qui on peut s'entendre, c'est un voyou. Alors nous, les voyous, pas de voyous. Hein, et donc, et immédiatement... Sous la pression de l'opinion publique, le gouvernement anglais est obligé, dans la quinzaine de jours qui suivent, de garantir les frontières de la Pologne, puis de la Roumanie, etc. Donc, on entre dans un processus de tension très forte. Et à ce moment-là, Staline comprend parfaitement que la situation est pour lui absolument idéale. On va vers une guerre. La tension devient de plus en plus forte. Situation idéale, puisque c'est la division des impérialistes telle que Lénine en a toujours rêvé. Et dans la mesure où il y a tension entre ces deux grandes forces, les nazis d'un côté, la France et l'Angleterre de l'autre, eh bien, on va se vendre au plus offrant.
Exactement, c'est ce que vous dites, c'est un chantage au plus offrant.
On fait monter les enchères. On fait tout simplement monter les enchères semaine après semaine sur le thème « si vous voulez mon alliance, qu'est-ce que vous me donnez ?»
Bon. Or, il n'y a qu'une personne qui puisse lui donner quelque chose, c'est clair.
Ben, le problème, c'est qu'il y en a qui peut donner des choses qu'il n'a pas encore, mais qu'il a l'intention de voler, et les autres qui ne peuvent rien donner parce que ce sont des démocrates et ils n'ont pas l'intention de décider pour d'autres peuples. Hein. Donc, le problème est simple. Staline veut conquérir des territoires. Il demande le droit, par exemple, pour l'armée rouge de passer à travers la Pologne au cas où il y aurait une guerre pour attaquer l'Allemagne. Les Polonais ils savent très bien ce que ça veut dire, que si l'armée rouge entre en Pologne, ils savent très bien ce que ça veut dire. Les Baltes aussi, ils savent très bien ce que ça veut dire. Bon, donc, évidemment, comme les Belges en 14, et donc, évidemment, la Pologne en particulier, évidemment, fait pression sur la France et l'Angleterre pour refuser ce type d'accord. Et la France et l'Angleterre, d'ailleurs, considèrent qu'ils n'ont pas à autoriser l'armée rouge à traverser la Pologne. Bon, la Pologne est un État indépendant qui prend les alliances qu'elle veut, etc. Bon, de l'autre côté, on a Hitler. Hitler, lui, il ne rêve que depuis des mois que d'attaquer la Pologne. Bon, si on attaque la Pologne, c'est très bien, on va la vaincre. On va se partager les morceaux. C'est les deux malfrats qui font un casse et puis on se partage la caisse à la sortie. Bon, donc c'est vraiment comme ça que ça s'est présenté et ils en étaient très conscients. Enfin, quand on a maintenant les sténogrammes de ces discussions, etc., qui ont d'ailleurs été publiés depuis longtemps, hein, puisque beaucoup des rapports sur ces négociations secrètes se sont en fait retrouvés dans les archives allemandes, bien entendu. Elles sont dans les archives soviétiques cachées depuis 1939. Mais... évidemment, elles étaient dans les archives allemandes et en 1945, les Alliés sont tombés dessus. Alors, ils ne les ont pas publiées tout de suite parce que, bon, on était encore dans la Grande Alliance, on ne voulait pas semer la pagaille. Mais quand la guerre froide a commencé, évidemment, les Américains ont tout de suite publié des quantités de documents sur les rencontres entre nazis et soviétiques au plus haut niveau.
Alors, comment s'engage le processus diplomatique secret, Stéphane Courtois? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Restez avec nous à l'écoute de Canal Académie. A tout de suite.
Bernard Buffet est de ces peintres qui ont connu très jeune un succès fulgurant, puis ont été boudés par la critique. Il a été reconnu à juste titre comme un peintre majeur du XXe siècle par l'Académie des Beaux-Arts et élu membre dans la section peinture en 1974. Écoutez notre émission en compagnie de l'historienne de l'art Lydia Arambourg, réalisée dans la galerie Maurice Garnier. L'émission Bernard Buffet, peintre de la solitude, est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée au pacte germano-soviétique. Je reçois Stéphane Courtois. Stéphane Courtois, tout le monde vous connaît pour le livre noir du communisme. Vous venez de publier à la Fondation pour l'innovation politique un article intitulé « Retour sur l'alliance soviéto-nazie 70 ans après ». Pour réaliser cette émission, j'ai également utilisé l'ensemble du colloque intitulé « Une si longue nuit », colloque que vous avez dirigé, l'apogée des régimes totalitaires en Europe 1935-1953, donc sous votre direction aux éditions du Rocher et naturellement votre dictionnaire du communisme, toujours dirigé par vous chez Larousse dans la collection à présent. Alors nous en sommes, Stéphane Courtois, au processus diplomatique. Staline a fait son choix, il sait qu'il va se diriger vers Hitler, mais c'est lui qui mène la barque.
Absolument, puisque en fait c'est lui qui commande la manœuvre, puisque c'est lui qui fait monter les enchères. Donc c'est lui qui donnera son alliance, ou en tout cas sa neutralité, à un camp ou à l'autre. Bon. Et donc, bah, effectivement, à un moment... Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que d'un côté, il engage des négociations publiques avec la France et l'Angleterre, on se rencontre, on fait des discours, etc. Mais de l'autre côté, évidemment, il engage des négociations secrètes avec les Allemands. Ces négociations secrètes, elles vont être amorcées très tôt, hein, puisque je vous disais que c'est le 15 mars que les accords de Munich sont déchirés et que tout bascule. Dès le 17 avril, l'ambassadeur soviétique à Berlin, qui était arrivé à Berlin en juin 1938 et qui jusque-là n'avait pratiquement pas pris contact avec les services des affaires étrangères allemands, eh bien, le 17 avril 1939, d'un seul coup, il demande à rencontrer l'un des principaux chargés d'affaires du ministère des Affaires étrangères allemand. Et alors bon, l'autre est assez surpris, évidemment, il ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe. Hein, on est bon, évidemment, et d'autant qu'entre-temps, l'Allemagne s'est distinguée, l'Allemagne nazie s'est distinguée. Il y a eu la nuit de cristal, les grands pogroms contre les juifs, etc. Donc l'Allemagne est en train d'être au banc des nations. Et bien, c'est justement le moment où l'ambassadeur soviétique demande à rencontrer. Et alors là, très calmement, il fait une déclaration qui est, hein, où il dit, voilà, la rue. Là, c'est le compte-rendu de von Weizsäcker, le chargé d'affaires allemand, qui dit, voilà, dans son rapport, la Russie ne voit aucune raison de ne pas entretenir avec l'Allemagne des relations normales, relations qui pourraient aller en s'améliorant sans cesse. Alors, qu'en termes diplomatiques, tout ça est dit, mais c'est très clair. On est le 17 avril, et à partir de là, les choses vont aller très vite.
Vous signalez d'ailleurs, le 3 mai 1939, Litvinov est débarqué. Et c'est un symbole, Litvinov.
Ah ben c'est évidemment. Alors, le 3 mai 1939, le ministre des Affaires étrangères russe, dont le pseudonyme est Litvinov, et qui en fait est un juif, autre signe intéressant, hein, et un vieux bolchevique, Litvinov, qui était le ministre qui a porté sur les fonds baptismaux toute la politique d'alliance avec la France, etc. etc.
De sécurité collective.
Sécurité ouais. collective, la SDN, etc. Du soir au matin, Litvinov est débarqué. Double signe, double symbole, puisque d'un côté, on débarque l'homme qui symbolise la sécurité collective, l'alliance avec la France, et de l'autre côté, on débarque un juif. Bon, ça fait quand même deux signaux assez sympathiques pour Hitler. Et immédiatement, on nomme à sa place Molotov, qui est le bras droit de Staline, hein, et ce qui indique tout à fait que désormais, toute cette affaire est, j'allais dire, sous l'œil du maître. C'est-à-dire, c'est Staline directement qui va diriger toute la manœuvre. Et les choses vont s'accélérer très vite. Hein. Donc, Molotov est en place le 4 mai. Et le 20 mai, il demande à rencontrer l'ambassadeur allemand à Moscou. Et là, très rapidement, l'ambassadeur allemand lui-même fait un rapport à Berlin en disant « Mais c'est incroyable, j'étais reçu, mais avec une cordialité absolument ahurissante. Enfin, » il est ébloui, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un miracle, il y a une conversion, de quoi s'agit-il? » Alors, il est encore un peu méfiant, c'est quand même un ambassadeur très important. Donc, il dit « Il faut faire attention. » Mais enfin, quand même, son rapport est... Bon, il est estomaqué, si vous voulez. Il est estomaqué de ce renversement, etc. Et il sent qu'il se passe quelque chose.
Mais c'est finalement dans ce genre de rapport que l'on voit que Staline mène les choses.
Complètement. D'autant que le 4 août, dans ce petit jeu de rencontres entre diplomates de très haut niveau, le 4 août, Molotov demande à recevoir Schulenburg. Il le convoque à Moscou. Et il lui déclare sans embâche que l'URSS souhaite immédiatement une normalisation immédiate de ses relations avec l'Allemagne. Et que, voilà, il faut... les choses vont s'accélérer. Et du côté allemand, on commence à recevoir le message. Là, on est le 4 août. Bon, en même temps, n'oublions pas que pendant toute cette période, Hitler est en train de préparer l'attaque contre la Pologne. La Wehrmacht se prépare, etc., etc. Mais Hitler ne sait pas encore s'il va attaquer, parce que, qu'est-ce qui se passe si l'URSS rentrait en guerre contre lui? Qu'est-ce qui se passe si la France et l'Angleterre arrivaient à nouer une alliance, l'Allemagne se retrouverait dans la même situation stratégique qu'en 1914, c'est-à-dire combattant sur deux fronts, Est et Ouest, ce qui pour les Allemands a été la cause principale de leur défaite. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont analysé leur défaite dans la Première Guerre mondiale. Sur un plan strictement stratégique, il était impossible de mener la guerre sur les deux fronts. Et donc, c'est la chose qu'il faut éviter à tout prix. Mais à ce moment-là, on est le 4 août, Hitler ne sait pas encore comment ça peut tourner. Il prépare très activement l'attaque de la Pologne. Et alors là, il décide de sauter le pas. C'est-à-dire que le 15 août, c'est quand même extraordinaire, le 15 août 1939 à 4h40 du matin, donc vous voyez, ça ne pouvait pas attendre, von Schulenburg, l'ambassadeur allemand à Moscou, reçoit un télégramme de son ministre, von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères allemand, qui lui dit « Vous allez aller immédiatement chez Molotov et vous allez lui faire une déclaration comme quoi nous sommes prêts à normaliser toutes nos relations. » Bon, alors là, évidemment, ça y est, la négociation secrète entre dans sa phase la plus active. Ça va aller extrêmement loin, puisque le 21 août, toujours à 1h du matin, Schulenburg va recevoir un nouveau télégramme de Ribbentrop lui disant d'aller immédiatement chez Molotov. C'est jour et nuit, là. Il n'y a plus de matin, il n'y a plus de soir. Et pour donner à Molotov, pour lui remettre un message personnel d'Adolf Hitler à, je cite, « Monsieur Staline ». Alors là, on est au sommet. Là, les deux dictateurs sont, en contact direct. Donc, la négociation est à son maximum. On est là le 21 août. On est 10 jours avant l'attaque de la Pologne. Et rien n'est réglé. Vous imaginez dans quelle situation de force se trouve Staline? Est-ce que oui ou non, il va donner sa neutralité ou pas? Hitler est sur des charbons ardents parce que vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, Hitler dit qu'il est tout prêt à signer immédiatement un traité, mais qu'il faudrait que son ministre des Affaires étrangères soit reçu à Moscou. On est là le 21 août à 1h du matin. Eh bien, le 23 août, von Ribbentrop atterrit à Moscou, en grand secret bien entendu, et les choses vont se passer extrêmement vite. Il va y avoir dans la nuit même un accord qui est donc un accord qu'on va appeler le pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Alors, il y a donc une partie publique de l'accord qui est, les deux pays décident d'établir des relations diplomatiques normales et s'engagent à ne pas s'agresser l'un et l'autre au cas où éclaterait une guerre, etc. Bien, ça, c'est la partie publique. Et après tout, on peut dire, encore que, c'est évidemment déjà le feu vert, puisque Hitler a la garantie que si la France et l'Angleterre l'attaquent, l'URSS ne s'alliera pas avec ceux qui attaquent Hitler. Donc, c'est déjà le feu vert. Mais le feu vert est équilibré par une partie secrète du traité, qui est ce qu'on appelle les protocoles secrets, dont les soviétiques ont nié l'existence jusqu'en 1990-91, ce qui était quand même extraordinaire, puisqu'ils étaient publiés depuis 1948 par les Américains, qui les avaient trouvés évidemment dans les archives allemandes, plus évidemment les témoignages de Ribbentrop, etc. Or, ces protocoles secrets étaient très clairs. C'était en cas de guerre entre l'Allemagne et la Pologne, imaginez-vous, hypothèse absurde, bien sûr, mais en cas de guerre entre l'Allemagne et la Pologne, eh bien, la moitié orientale de la Pologne reviendrait à la zone d'influence soviétique, et puis l'Estonie et la Lettonie reviendraient à la zone d'influence soviétique. Voilà, on commence à mettre en place le partage, et évidemment, on est là le 23 août. Alors évidemment, l'annonce de ce pacte, même sans la connaissance des protocoles secrets, est un tremblement de terre. Parce que assister à un rapprochement aussi intense entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, qui se couvrent d'injures réciproquement depuis 1933, parce que depuis 1933, toute la propagande communiste du monde entier agonie Hitler d'injures nazies, barbares, sauvages, etc. Et de l'autre côté, bien entendu, toute la propagande nazie, les communistes, les barbares, etc. Et voilà que, d'un seul coup, c'est le grand amour. Donc c'est la stupeur, évidemment, c'est le tremblement de terre dans toutes les chancelleries. Mais enfin, immédiatement, tout le monde comprend que c'est le signal de déclenchement de la guerre. Et évidemment, c'est ce qui va se passer le 1er septembre, totalement garanti sur un éventuel front à l'est de la Pologne. Hitler attaque la Pologne, il l'attaque très violemment, donc il entre, puisqu'il l'attaque de plusieurs côtés. Il l'attaque du côté de l'Allemagne, mais il l'attaque aussi du côté de la Prusse orientale. N'oublions pas qu'au nord de la Pologne, il y a un territoire allemand qui s'appelle la Prusse orientale. Donc l'attaque est vraiment, il y a des attaques convergentes qui font que les Polonais sont dans une situation stratégique très, très difficile à défendre. Ils reculent. Bon, jusqu'au moment où Hitler fait passer un message à Staline sur le thème « Mon cher collègue, qu'attendez-vous pour rentrer en Pologne par le quatrième côté ?»
Oui, parce que vous dites que Staline est pris au dépourvu. Il est finalement obligé d'improviser. Alors, et là, étonnamment, il y a un effet de surprise. Il ne s'attendait pas à ce qu'Hitler agisse aussi rapidement.
Il s'attendait à ce qu'Hitler agisse aussi rapidement, mais il ne s'attendait pas du tout à ce qu'Hitler obtienne un succès militaire aussi rapide. Ça, c'est la première surprise. Bon, et donc, sur pression des Allemands, qui lui disent « Mais enfin, on ne comprend pas, nous avons signé un protocole secret, donc vous devez vous aussi entrer en Pologne. » Bon. Et donc le 17, sur pression allemande et sur demande allemande, le 17 septembre, l'armée rouge entre en Pologne. Les Polonais, qui sont déjà dans une situation militaire très difficile, se disent après tout « Peut-être que les Soviétiques viennent à notre secours. » Grave erreur, évidemment. Les Soviétiques vont rafler tous les prisonniers et vont occuper jusqu'à entrer en contact avec l'armée allemande. Et là, il y a ces fameuses images qui maintenant sont assez connues du défilé militaire en commun des troupes allemandes et soviétiques avec les généraux allemands et soviétiques sur la même estrade en train de se saluer, de se congratuler, etc. C'est la destruction de la Pologne, c'est l'annexion de la partie orientale de la Pologne par Staline avec, je le disais tout à l'heure, Hitler qui hésitait, est-ce qu'on maintient un état croupion ? Staline dit non, on liquide tout. Et on est là le 17 septembre, l'armée rouge entre en Pologne. Et le 28 septembre, qu'est-ce qui se passe? Alors là, en grande pompe, von Ribbentrop retourne à Moscou. Et là, on ne se cache plus. On signe le fameux traité d'amitié. Ce n'est plus un traité de neutralité, c'est un traité d'amitié et de délimitation des frontières. Donc c'est très clair, on s'est partagé le gâteau. Il faut se mettre bien d'accord sur les frontières pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Et là, le partage est tout à fait entériné. Ça va aller très loin, puisque évidemment, ça va aller jusqu'à une collaboration entre les polices politiques, Gestapo et NKVD, contre la résistance polonaise qui immédiatement est en train de s'organiser. Et donc, on a ce processus qui va aboutir en juin 40 par la prise des derniers gages par Staline. Au moment où Hitler attaque la France, Staline se dit « Bon, pendant qu'il est occupé à l'ouest, je prends les derniers gages. » Donc, il occupe les trois États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, et la province roumaine de Bessarabie, qui aujourd'hui reste le dernier avatar du pacte germano-soviétique. C'est ce fameux pays qu'on appelle la Moldavie, qui est coincé entre l'Ukraine, la Roumanie, etc., et qui reste le dernier avatar du pacte germano-soviétique et qui, il faut bien le dire, dans une situation vraiment très catastrophique aujourd'hui. Elle est tiraillée entre l'Ukraine, entre la Roumanie et la Russie. Bon, et pourtant, c'était une population à 70% roumanophone, donc c'était très clairement, la Bessarabie était très clairement une province roumaine. Staline l'annexe purement et simplement.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que finalement, Staline opte pour une politique ni plus ni moins que d'expansion mondiale quand Lénine lui parlait davantage de capacité de destruction de l'intérieur par le biais de la subversion des partis communistes, etc., dans les pays. Là, il y a résolument une volonté militaire d'expansion.
Oui, tout à fait. Mais ça n'est pas nouveau. Ça remonte à 1923, au grand conflit entre Trotsky et Staline. Je rappelle qu'en 1923, Trotsky en tête et le bureau politique soviétique ont décidé de lancer une insurrection en Allemagne. octobre 23, ils essayent d'organiser une insurrection en Allemagne qui finalement ne va pas réussir. Mais déjà à ce moment-là, dans la discussion, Staline était contre, en disant de toute manière, les prolétaires occidentaux ne seront jamais capables de faire une révolution comme la nôtre. Il faut voir les choses autrement. Et c'est à la suite de cet échec en Allemagne que Staline a inventé son fameux slogan « Construire le socialisme dans un seul pays », c'est-à-dire on se replie sur l'URSS et on se renforce. En 1939, la situation a évolué. L'URSS est forte, enfin en tout cas elle est beaucoup plus forte qu'en 1923 où le pays était entièrement détruit. Elle a une armée relativement mécanisée, etc., qui a d'ailleurs profité des leçons de l'armée allemande s'entraînant secrètement en URSS pendant toutes les années 20. Hein. Et Staline est persuadé que son armée est assez forte hein, pour pouvoir gagner des batailles, etc. Il a oublié un petit détail, c'est qu'en 1937-38, il a purgé tout son état-major. Et que Staline, il est un peu resté sur la guerre civile. La guerre civile, c'est une guerre de partisans, c'est une guerre qu'on fait à cheval, etc. La guerre moderne, et Hitler vient de le montrer en Pologne, c'est une guerre mécanisée. Et pour faire une guerre mécanisée, il ne suffit pas d'avoir un baroudeur qui, sabre au clair, charge à la tête de sa cavalerie. Il faut tout autre chose. Il faut des ingénieurs, il faut des techniciens, il faut des logisticiens, etc. Tous ces gens-là ont été massacrés dans la purge. Hein, et c'est d'ailleurs pour ça que l'armée rouge connaîtra de très grands désastres lors de l'attaque allemande en 1941. C'est qu'il n'y a plus d'encadrement. Il y a du matériel, mais il n'y a plus d'encadrement. Hein. Donc, néanmoins, Staline, fier de enfin, parce que pour lui, c'est un miracle. Hein, il doit se dire, le camarade Lénine, quand même, je le surpasse. Hein. On a raté le coup en Pologne en 1920, mais là, c'est réussi. On prend la moitié d'un coup, les États baltes, etc. Et donc, il décide, à l'automne 39, d'attaquer la Finlande. Là, ça va se passer beaucoup plus mal. Parce que la Finlande, c'est pas la Pologne, c'est pas une plaine ouverte. Hein, c'est un pays de collines boisées, où il y a beaucoup de neige en hiver, etc. Et où l'armée rouge va s'enliser avec des désastres complets, etc. Hein, ça va être une très grosse leçon. Ça va être une grosse leçon pour Staline qui va se dire, bon, là, il faut reconstruire l'armée. Mais ça va être une leçon inverse pour Hitler qui va se dire, oh, bah, de toute manière, son armée ne vaut rien. Donc, on pourra l'enfoncer quand on voudra, ce n'est pas un problème. Les deux vont tirer des leçons inverses de la guerre de Finlande. Hein.
Alors, Stéphane Courtois, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Il y a une expression qu'utilise Yves Santamaria dans le colloque « Une si longue nuit », donc l'apogée des régimes totalitaires en Europe que vous avez dirigé, paru aux éditions du Rocher. C'est le titre de sa conférence « Une réelle politique totalitaire, rapprochement conjoncturel ou de principe ?» Point d'interrogation. Est-ce que, au fond, Staline n'agit pas à l'égard de l'Allemagne comme vis-à-vis d'un mal nécessaire? Est-ce que c'est au fond une recherche désespérée de la sécurité, ou ni plus ni moins qu'une prolongation de Rapallo? Ou est-ce au fond le facteur idéologique qui prime dans cette démarche?
Non, je crois qu'il y a incontestablement un point commun fondamental entre les deux, c'est que ce sont deux régimes totalitaires, c'est-à-dire deux régimes qui sont fondamentalement opposés aux démocraties. Et ça, lors des discussions de 1939, c'est très clair. Ribbentrop le dit, nous avons un ennemi commun, ce sont les démocraties, et Staline ne dément pas. Donc ça, c'est ce que j'appellerais le point de vue idéologique. Il considère que les démocraties, ce sont des gens à liquider, qui empêchent justement l'expansion chacun de leur régime. Bon. Donc l'idée, c'est on va liquider les démocraties, ensuite on s'expliquera entre nous. Bon. Donc de ce point de vue-là, il y a un point de vue idéologique. Il y a un deuxième point de vue idéologique qui est que un régime totalitaire, par définition, est un régime qui doit être en expansion. Parce qu'un régime totalitaire est un régime révolutionnaire, et un régime révolutionnaire doit être nourri en permanence, le ressort doit être tendu en permanence, et ce ressort, c'est évidemment l'expansion. On le voit chez Hitler, on le voit chez Mussolini avec l'Abyssinie, etc. Mais on le voit aussi chez Staline. Hein, on le voyait déjà chez Lénine, on le revoit chez Staline. Donc, on a ces deux principes-là, c'est le côté totalitaire de la définition de Santamaria, si je puis dire. Maintenant, il y a le côté réel politique. Effectivement, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la grande force de Staline, c'est que non seulement il a sa foi idéologique, parce que c'est un vrai bolchevique, un vrai totalitaire, mais en plus, c'est un homme d'un très grand réalisme. C'est-à-dire que c'est un homme qui est capable d'analyser les situations de très près. Maintenant qu'on a beaucoup d'archives, c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, il a une connaissance des situations remarquable. Il sait peser les rapports de force de manière remarquable. Il sait manœuvrer de manière remarquable. Et évidemment, son action à partir du moment où ses projets totalitaires doivent s'inscrire sur le terrain, comme pour Hitler, bah, il faut faire de la realpolitik, c'est-à-dire ça s'inscrit dans un cadre géopolitique. Si on veut conquérir des territoires, forcément, on est confronté à la géopolitique. La géopolitique, c'est assez simple. Hein. À tel endroit, y a-t-il une chaîne de montagnes, y a-t-il pas une chaîne de montagnes? Bon, ou y a-t-il une plaine ouverte à travers laquelle on va pouvoir faire défiler des chars sur 300 km? Bon, donc voilà, c'est des choses un peu élémentaires, je dirais, mais que Staline maîtrise parfaitement. Et donc, il joue avec une très grande maestria là-dessus, avec en plus le fait que il est à la tête d'un mouvement communiste mondial, c'est-à-dire à l'époque déjà des dizaines de partis communistes qui sont intégrés dans une structure très centralisée qui s'appelle l'Internationale communiste ou le Comintern, peu importe le nom, et à qui immédiatement Staline va faire donner des directives précises. Par exemple, pour la France, bah, dès la mi-septembre 1939, le Parti communiste va recevoir des directives comme quoi la ligne antifasciste, c'est fini. L'ennemi, ça n'est plus Hitler. L'ennemi, c'est le gouvernement Daladier qui est en train de faire la guerre contre Hitler. Hein. Et donc, on va assister le 1er octobre à la diffusion d'une lettre ouverte au Parlement français, diffusée par Jacques Duclos, le chef du Parti communiste qui est en France à ce moment-là et qui n'est pas mobilisé, et qui est un appel pur et simple à signer immédiatement la paix avec Hitler, le 1er octobre 1939. Bon. Donc, on est là dans un mouvement carrément pacifiste. Hein, de démoralisation d'un pays en guerre, où on appelle au Parlement à signer la paix, tout simplement, puisque la Pologne étant détruite, la guerre n'a plus d'objet. C'est l'argument de Duclos. Bon, tout à fait extraordinaire. Hein. Il faut quand même rappeler que si nous entrons en guerre, c'est justement pour défendre la Pologne ou l'existence de la Pologne à terme. Donc voilà. Et donc, évidemment, Staline va jouer là-dessus. C'est-à-dire que tous les partis communistes dans le monde entier, d'un seul coup, vont abandonner la ligne antifasciste et vont rejoindre la ligne de ce qu'on va appeler la lutte contre la guerre impérialiste, puisque à partir de ce moment-là, on fait alliance avec Hitler. Donc, les vrais impérialistes, les agresseurs, bah, c'est les Français et les Anglais. Bon. Donc voilà, et ça va durer pratiquement jusqu'en juin 1941.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane Courtois de nous avoir décrit cette alliance soviéto-nazie 70 ans après. Retour sur cette alliance, donc c'est le titre de la publication de la Fondation pour l'innovation politique, disponible sur fondapol.org. Fondapol, c'est fondapol.org. Je cite également Une si longue nuit, les actes du colloque consacré au totalitarisme. Alors, il y en a eu plusieurs. Hein. Je renvoie nos auditeurs à nos émissions. Une si longue nuit, paru aux éditions du Rocher, sous votre direction. Le dictionnaire du communisme, toujours sous votre direction, chez Larousse, dans la collection À présent. Et nous avons reçu en service de presse un tout nouveau magazine, Histoire de la dernière guerre, 1939-1945, au jour le jour, le tome 1 donc vient de sortir, septembre-octobre 1939, il y a 70 ans, la guerre. Merci beaucoup.
Merci.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.